Bonjour, frères et sœurs. Content de vous. Oh, pardon, je casse tout. Pardon, c'est la peur. Hein. Content de vous retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous. Il y a un vieux cantique qui dit. Redites-moi l'histoire. L'histoire de Jésus. Quelque part, dans le cantique, il nous dit de la crèche à la croix. Redites-moi l'histoire. Et comme le pasteur a une série de messages qu'il prêche, et il les intitule dans ce type de message. Je crois, je ne me rappelle pas le mot exactement, mais c'est les disciples, l'enseignement du maître. La Bible nous apprend que les apôtres de leur temps, leur discours, leur prédication se basaient toujours sur la personne de Jésus-Christ, dont l'auteur de leur foi. Et j'essaierai, moi, de m'aligner après eux. Parce que si nous avons un modèle, le modèle que nous avons le modèle des apôtres qui parlaient de Jésus. C'est vrai, dans un premier temps, il y avait la peur, mais après, le Saint-Esprit est venu. Quand nous les lisons, c'est comme s'il n'y avait plus de peur parce que le Saint-Esprit les habite. Le Saint-Esprit avait pris possession d'eux et ils ont pu parler avec, si j'ose dire, avec hardiesse et autorité. L'histoire de Jésus. Comme nous sommes dans une période, nous avons fêté l'ascension, je me dis qu'il est bon de nous rappeler de parler de la résurrection et de l'ascension. Je veux commencer ainsi. Vous savez, chers frères et sœurs, un artiste, ou bien, je vais prendre cet exemple, un artiste, souvent, avant qu'un artiste termine sa carrière, très souvent, ils ont l'habitude de faire une tournée pour boucler leur carrière. Souvent, ils font ça, souvent. Pour remercier leurs fans, ceux qui les ont soutenus pendant toute leur carrière. Mais notre Jésus, ce n'était pas parce qu'il avait besoin, par exemple, parce que son œuvre ici-bas s'achève. Mais son œuvre continue dans le ciel. Nous allons voir ça. Donc, après la résurrection, Jésus a passé un nombre de temps sur la terre, après sa résurrection. Je dis bien, hein, parce que les artistes, généralement, ils font le tour, voilà, pour remercier, pour donner quelques autographes, pour dire merci à leurs fans qui les ont soutenus pendant leur carrière. Mais Jésus n'était pas en train de chercher il n'était pas en train de donner quelques signatures pour remercier leurs fans, non. Et je vais vous inviter à lire, je dois vous dire ça, en préparant, comme d'habitude, depuis ces derniers temps, le pasteur et le comité de l'Église me font l'honneur de parler malgré moi, mais je découvre, quand je prépare les prédications, je me dis ça, je ne peux pas le dire en 30 minutes, ça je ne peux pas le dire en une demi-heure, je ne peux pas le dire en une heure de temps, c'est tellement long, donc il me faudrait du temps. Mais bon, vous allez quand même me comprendre, nous avons tellement de lectures, nous pouvons en faire, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit me permettra de dire ce qu'il voudra que je dise à son Église. La première lecture que je vous propose, c'est Actes chapitre 1er, verset 1 à 3. Je crois que je ne l'ai pas dit, hein, ma soeur, j'avais dit 1 et 2, c'est ça. Verset 1 à 3. Et puis, nous lisons aussi, acte 1er, verset 11 et 12. Nous avons plusieurs lectures, mais je vais juste simplement, avec le temps, pendant la prédication, si Dieu me permet, je les citerai, mais nous n'aurons pas le temps de lire tous les textes, mais qui sont, croyez-moi, tout ce que je vous dirai sont tirés de la Bible. Ce n'est pas frère Ruben qui les invente, parce que je sais que vous êtes des Béréens, vous me comprenez? Vous êtes des disciples, vous êtes des Béréens, vous voulez voir les choses. Si j'étais au pays, dans mon pays, il y a un dicton chez nous qui dit autrement, on n'achète pas un chat dans un sac, il faut le voir. C'est ce qu'on dit chez nous, chez moi. Je lis, pardon, j'ai pas pris mes lunettes. Alors, je lis le texte de Actes des Apôtres, chapitre 1. Les premières lectures, Actes 1er, verset 1 à 3, verset 11, verset 12, et après je vais m'installer en Matthieu, chapitre 27, 28, chapitre 20. Je vous annonce la couleur. C'est ces lectures-là, nous saurons. Alors, d'ores et déjà, je lis Actes 1er, verset 1 à 3, verset 11, verset 12. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Je suis au verset 11 et 12. Verset 10 et 11, pardon. Et comme ils avaient leur regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Très important, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comme je vous l'avais annoncé, je vais m'installer, prendre possession de Matthieu, et ainsi de suite. La première chose, j'aimerais vous rappeler que la Bible nous dit que Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Jésus-Christ était mort, il a donné sa vie pour nos péchés. Et en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3-5, la Bible nous dit que Jésus a donné sa vie pour nos péchés, non pas parce qu'il avait fraudé, non pas parce que Jésus avait dit une parole qu'il ne fallait pas qu'il dise. Jésus, tout simplement, il a donné sa vie pour nos péchés. Mais la Bible nous dit après quoi il est ressuscité. J'aimerais souligner le nombre 40 dans le texte. Le nombre 40, c'est un nombre que nous trouvons à plusieurs fois reprises dans la Bible, car nous trouvons lorsque le déluge du temps de Noé, 40 jours. Moïse a passé 40 ans dans le désert, 40 ans chez Pharaon. En effet, si nous avons juste une explication à donner, parlant de ces chiffres, les détails nous parlent, c'est un moment de preuve. Le chiffre 40. Mais là, ce qui nous concerne ce matin, comme je vous disais au préalable, un artiste, souvent, avant de raccrocher les crampons, il fait le tour pour remercier ses fans. Mais ici présent, après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a passé 40 jours sur la terre pour attester, pour prouver, pour montrer à ses disciples qu'il était bien vivant, qu'il était bien ressuscité. Avant tout, pourquoi Jésus, comme je le dis, Jésus était mort pour nos péchés? Mais nous voyons que Jésus-Christ, toute sa vie a été contestée. Il y a eu de l'hostilité à la personne de Jésus-Christ, le meurtre, l'hostilité, la haine, Jésus a été contesté. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il disait la vérité. Par exemple, dans le livre de Jean, nous trouvons que Jésus, il y a huit points, huit signes, et sur ces huit signes, les Sanhédrin, alors c'est un mot, Sanhédrin, les huit signes, c'est quoi les huit signes? Ils sont bibliques. Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a donné à manger à une multitude avec des petits pains et des petits poissons. Il a donné à manger à 5000 personnes. Jésus a guéri des gens. Jésus a guéri un aveugle de naissance. Le Sanhédrin dit, bon, un type comme ça, pardon, permettez-moi de parler dans le langage d'aujourd'hui, il se disait, un type comme ça, on va tout faire pour en finir avec. Voilà, aux États-Unis, quand quelqu'un est accusé, je ne sais pas tout comment on appelle ça en France, ici on appelle ça accusation. Bon, mais aux États-Unis, on appelle ça des chefs d'accusation. Alors, pendant la vie de Jésus, on cherchait toujours des arguments pour en finir avec. Par exemple, en Jean chapitre 2, verset 18-20, Jésus parlait de sa personne, là où il a dit « détruisez le temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Là, on a dit « bon, là mon petit, on va faire ta fête ». Comment cela se fait-il? Un bâtiment, on avait pris 46 ans, Jean chapitre 2, verset 18-20. Comment, mon petit, tu peux parler ainsi? Un bâtiment qui est notre référence, on a pris 46 ans pour le construire et toi tu dis tu vas l'abattre et tu vas le reconstruire en 3 jours? Non mon cher, ça va pas se passer comme ça. Et Jésus ne parlait pas du tout d'un bâtiment. Vous comprenez? Jésus ne parlait pas du tout d'un bâtiment. Jésus parlait de sa propre vie. Vous savez, si on n'a pas l'esprit de Dieu, de même, si vous vous souvenez l'histoire de Nicodème, lorsque Jésus lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu quand on n'a pas le Saint-Esprit en nous. En Matthieu 27, verset 1er, nous voyons que le Sanhédrin, le mot Sanhédrin, si vous consultez, vous verrez que c'était une sorte de tribunal, là que les principaux sacrificateurs, les anciens, siégeaient, c'est là où ils réglaient certaines affaires civiles et même religieuses. Alors que c'était des gens qui connaissaient la parole de Dieu, mais ce genre-là, quand Jésus parlait, je ne sais pas, moi je vais vous donner un témoignage de moi, un petit témoignage de moi. Je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'avais un grand frère qui était plus âgé que moi, qui avait plus 18 ans que moi. Mais quand il y a des choses, quand il parlait, il disait, moi je ne supporte pas quand on fait la méchanceté à quelqu'un. J'ai un cœur comme ça, je ne supporte pas ça. Quand je vois qu'on veut bafouer quelqu'un, on veut faire du mal à quelqu'un, je ne peux pas supporter ça. Alors je me suis toujours quelquefois positionné en défenseur. Mon frère m'a toujours dit de l'époque, toi, tel que je te vois là, toi, tu es un avocat. Mais non, c'est tout simplement, c'est pas bien ce qu'on fait à l'autre, c'est pas bien, c'est tout. Eh bien, Jésus, lui, comme Jésus était toujours là pour donner à manger, guérir les malades, tout ça, ça dérangeait. Maintenant, je vous propose de faire quelques lectures en une lecture en Matthieu chapitre 28, verset Matthieu 28. Matthieu 28, verset 11 à 15. Matthieu 28, 11 à 15. Si nous comprenons bien, je vous lis les textes. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. De quoi il s'agit? De quoi parle-t-on ici? Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de la peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alors, cela, il faudrait aussi que je lise Matthieu 27, versets 62 à 66. Ces deux portions de l'Écriture vont nous éclairer. Le lendemain, ici, comprenons, c'est après la crucifixion, Jésus est mis au tombeau. Et ça veut dire qu'on est vendredi soir, donc là, on est samedi matin. Chronologiquement, on est samedi. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Pilate, qui était en ce moment-là, dans notre temps aujourd'hui, nous pouvons dire soit un préfet, ou bien qui était gouverneur de l'époque, et au verset 63, et dire, « Seigneur, on l'appelait Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire qu'au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Je m'arrête là. Si nous comprenons ces lectures, frères et sœurs, nous pouvons constater, après la mort de Jésus-Christ, il y a eu une sorte de marchandage, un peu de business. Pourquoi je dis ça? Le conseil, les principaux sacrificateurs, ils se sont réunis pour trouver un accord avec le gouverneur. Et le gouverneur a validé leur demande. En lisant le texte, si vous faites une analyse comme moi, le verset 63, Matthieu 27, verset 63, c'est vrai que les principaux sacrificateurs, les anciens, c'est-à-dire que les dirigeants du peuple, si vous suivez bien, ils contestaient Jésus, mais ils ont cru quand même de ce que Jésus avait dit de l'époque. Regardez. Jésus est déjà enseveli dans le tombeau. Le verset 63. Mais ils viennent voir le gouverneur pour lui faire cette demande. Voilà, c'est quoi? Il se souvenait. Jésus avait dit, Jean chapitre 2, verset 18-20, là où nous avons lu, un peu partout dans les évangiles. Il se souvenait que Jésus avait dit, après trois jours, je ressusciterai. Waouh! Ça reste quelque part dans un petit coin dans leur tête, mais ils ont essayé de trouver un accord pour pouvoir, vous savez, Notre société fonctionne comme ça. Notre société fonctionne comme ça, malheureusement. On essaye toujours de faire quelques manigances, de trouver. Et ça, c'est dans les affaires, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires de ce monde. Beaucoup d'affaires, je ne veux pas les citer ici, mais beaucoup d'affaires de ce monde, il y a toujours des petits arrangements. Et il y en a une affaire qui est dans l'actualité. Je pense que vous suivez l'actualité comme moi. Un haut placé qui est actuellement... je ne vais pas dire les choses, mais tout simplement, vous comprenez, je te donne ci, tu me donnes ça. Je te donne ci, moi je te donne une position surélevée. C'est de là que ça vient, avec cette fameuse condamnation-là. Parenthèse fermée. C'est de là que ça vient. Donc il y a toujours des arrangements. Alors, quand nous lisons le texte, là où les principaux sacrificateurs s'étaient réunis pour demander à Pilate, il se souvenait, voilà ce que Jésus avait dit de son vivant après 3 jours. Mais ils ont ça à l'esprit. Ils se réunissaient pour demander une faveur pour que le tombeau soit gardé. Et voilà Pilate qui leur dit, eh bien, comme vous avez de l'autorité, pas de problème, faites. Très bien. Frères et sœurs, c'est vrai. On a mis des soldats pour garder, pour veiller le tombeau. On a mis des soldats. On a fait un peu de commerce, parce qu'il y a question l'argent là dans le texte. On voit que Jésus, le corps de Jésus, il y avait un commerce qui était fait avec le corps de Jésus. Voilà, on en donne de l'argent pour que cela puisse rester entre nous. Mais... vous savez que dans, comment dire, il y a un terme en emploi, c'est dans tout ce qui est militaire, il y a ce qu'on appelle offensif, il y a ce qu'on appelle aussi plan d'attaque. Contre-attaque, il y a attaque et contre-attaque. Si nous lisons pour eux, voilà, le tombeau doit être gardé, le tombeau doit être scellé, le tombeau doit être surveillé pour que cela n'ait pas lieu. Ok, très bien. Mais quand nous lisons Matthieu 28, qu'est-ce qui se passe? Je lis au verset 2. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre. Bien-aimés, notre Dieu, toute cette semaine, je suis en train de lire. Notre Dieu, il est élevé. Notre Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. Lorsque les uns et les autres essaient de faire quelques manigances de gauche à droite, la Bible nous dit, Exode 14, verset 14, ça c'est un petit texte, ma grand-mère m'avait appris, « Restez en silence, l'Éternel combattra pour vous. » Et nous voyons ici, Dieu utilise de grands moyens. Et voici un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Waouh! La surprise. Quoique le tombeau est gardé, quoique il y a une grosse pierre, quoique les soldats sont là, ils ont de l'argent pour fermer la bouche, mais le ciel agit autrement. Voilà, je me dépêche parce qu'il y a de quoi à dire. Mais après la résurrection, Jésus, alors nous sommes au verset 6 qui nous dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Vous savez, frères et sœurs, l'homme, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu en nous, il y a des choses qui se passent dans nos vies, dans nos familles, nous n'arrivons pas à les comprendre. Jésus-Christ est bel et bien ressuscité, mais jusqu'aujourd'hui, au jour où nous parlons, il y a encore des gens qui contestent, qui ne veulent pas admettre que Jésus est bel et bien ressuscité. Mais heureusement, nous ne croyons, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons, nous croyons par la foi que Jésus est ressuscité. Après la résurrection, Jésus a passé 40 jours sur la terre. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus s'est montré à plusieurs reprises à des disciples, à des gens, pour attester qu'il est bien, bel et bien ressuscité. Nous allons voir une certaine Marie de Magdala. Alors, tout de suite, Marie de Magdala, Marie, c'est un prénom très courant, mais on nous dit que Magdala, c'est une petite bougarde de là où elle était originaire. Je cite ça et je ferme la parenthèse. La Bible nous dit que cette femme, Luc chapitre 8, verset 2, Luc chapitre 8, verset 2, la Bible nous dit cette femme, je comprends que son attachement pour Jésus, la Bible nous dit, Jésus a chassé en elle sept démons. Sept démons. Je comprends son attachement, pourquoi elle était malgré lorsque Jésus était sur la croix, sauf Jean qui était au pied de la croix, même les apôtres ont pris la fuite, mais Marie était là, elle suivait. Et quelque part, on nous dit que la douleur était tellement cruelle, mais elle était une fidèle, et au point, la Bible va nous dire qu'au petit matin, cette femme se rendait au sépulcre pour aller voir avec des aromates. Jésus s'est montré à cette femme qui était une disciple de Jésus, Marie de Magdala. Nous allons voir en Jean chapitre 20, Jésus va se montrer à des disciples comme preuve qu'il est bel et bien ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, sinon Ben n'a pas besoin. Ça ne sert à rien d'être là ce matin pour venir adorer. Non, notre Seigneur Jésus-Christ, il est bien ressuscité, il est là-haut, il est monté au ciel. Et en Jean chapitre 20, nous voyons que, en Jean chapitre 20, tu peux l'afficher s'il te plaît? Les disciples en lui dirent, donc nous avons vu, voilà, en chapitre 20, verset 25-29, les disciples ici présents, nous connaissons les faits, c'est que Jésus était déjà apparu aux disciples, mais à cette occasion-ci, Thomas n'était pas présent. Je vais juste aller au verset 28. Merci. Lorsque Thomas n'était pas là, une semaine après, Jésus a fait en sorte d'être là à nouveau. Vous savez que ce texte-là, le responsable ont affiché, c'est un texte très important, hein, ça. La paix soit avec vous. Jean 20, verset 19. C'est un texte très important. Jésus n'est pas entré dans une porte comme ça. Jésus n'est pas entré dans une porte comme ça. D'accord? Et même lors de la conception de Jésus-Christ, nous nous rappelons ce que la Bible nous dit. Jésus, il est rentré, voilà comme ça. Et ce terme-là, c'est une forme de salutation. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens le répètent machinalement, sans savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une forme de salutation. C'est Jésus, c'est un terme venant de Jésus. Et lorsque Thomas, qui n'était pas là, Jésus vient, Jésus dit à Thomas, pour attester, pour montrer à Thomas qu'il est bien ressuscité. Et Thomas, là maintenant, Thomas, comme vous connaissez le texte, mais il y a un petit truc que j'aimerais voir avec vous. Tout le monde le connaît. Mais Thomas va donner, remarquez bien, les disciples, le texte nous dit en Jean chapitre 20, un peu partout, les disciples étaient dans la joie de revoir Jésus. Mais pas plus, pas moins. Mais en Jean chapitre 20, verset 28, le texte nous dit que Thomas a rendu une sorte de louange, il va dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Les autres disciples, c'est vrai, ils étaient dans la joie de voir, de revoir Jésus ressuscité, de revoir Jésus vivant, mais pas plus, pas moins, mais en Jean chapitre 20, verset 28, Thomas va dire, c'est une sorte d'adoration. Et non seulement Jésus était Jésus, bien plus que ça, il est Dieu. Bien plus que ça, il est Seigneur. Bien plus que ça, il est au-dessus de tout, mon Seigneur et mon Dieu. Ici présent, Jésus s'est montré déjà à deux groupes de à une personne individuelle, à Marie de Magdala. Jésus s'est présenté individuellement à Thomas dans un cas bien précis pour l'attester, pour lui montrer qu'il est bien ressuscité, qu'il est vivant. Et aux apôtres aussi. Et Jésus aussi s'est montré à beaucoup d'autres personnes, 1 Corinthiens chapitre 15. Mais il y a l'un de personnages que Jésus a voulu aussi se montrer particulièrement. Non seulement se montrer, mais le remettre sur le rail, si vous me permettez l'expression. Vous vous rappelez en Marc chapitre 1er, verset 16, verset 17, Marc 1er, verset 17, lorsque Jésus a fait la rencontre de Pierre, il a dit à Pierre, écoute Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Comme vous le savez, c'était un pêcheur de poissons. La mission de Pierre a commencé là. En Jean chapitre 21, lorsque Jésus est arrêté, la situation était intenable et Pierre avait dit à Jésus, même lorsque tout le monde t'abandonne, moi, jamais. C'est biblique, hein, vous le savez, je le cite parce que je sais que vous êtes des Béréens et ensuite, moi, je me range, je me mets à votre place. Je ne veux pas qu'on me dise des choses sans que j'ai le moyen de vérifier. C'est tout à fait juste, je suis d'accord. Mais nous voyons que Pierre qui avait... Combien de fois Pierre a-t-il abandonné Jésus? Trois fois. Trois fois. En Jean chapitre 21, verset 15, verset 17, Jésus, son disciple, connaissant Pierre, mais comme Jésus lui avait dit, tu sais Pierre, avant que le coq chante, tu vas dire, cet homme-là, je ne le connais pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé, frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous dire, ayez foi en Jésus. J'aimerais vraiment vous dire, ayez foi en Jésus. Et tout ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit, c'est la vérité. Et comme Jésus l'avait dit à Pierre, il lui avait dit, Pierre, 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 fais ci, fais ça. Et Pierre, en Marc chapitre 14, Pierre a nié Jésus trois fois. Versets 66 à 72. Marc 14, parce que je dois me dépêcher. Vous comprenez, je ne peux pas prendre le temps de lire les textes parce qu'il y a une question de temps à respecter. Vous me pardonnez, vous me comprenez, d'accord? En Marc chapitre 14, versets 66-72, nous voyons trois fois et Pierre, bien-aimé, j'aimerais vous dire la chose suivante. Nous avons à faire attention. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nos comportements, nos paroles nous piègent. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas être ce dimanche matin, ici présent, être chrétien, et en sortant d'ici, je dis que je ne connais pas Christ. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et Pierre, dans Marc 14, verset 66-72, une petite dame qui vient, qui dit à Pierre, tel que je te vois là, tu étais avec lui, hein? Tu es Galiléen, Pierre. Tes paroles nous disent que tu es un chrétien, tu es quelqu'un un partisan de Christ. Pierre dit, jamais. Et ce qui est plus grave, quelque part, au verset 71-72, le texte nous dit, Pierre commence à faire des imprécations. Vous savez le mot imprécation? Commence à jurer, je ne l'ai jamais connu. Et Jésus avait bien dit à Pierre, tu sais Pierre, avant que le coq chante, tu vas me nier, tu vas dire que tu ne me connais pas. Et c'est ce qui est arrivé comme Jésus l'avait dit. Jésus avait besoin de consolider Pierre, de relever Pierre dans cette démarche. En Jean chapitre 21, Jésus va dire à Pierre trois fois. Vous savez que quand un match de football, quand il y a un match de football, lorsqu'il y a un à trois, bon, l'équipe qui mène à trois, c'est lui qui est gagnant. On est d'accord. Trois fois, Pierre avait renié Jésus. Et là, en Jean chapitre 21, verset 15, verset 17, Jésus va dire à Pierre trois fois, m'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? Et à chaque fois, Jésus va utiliser le même verbe, ça dépend quelle version vous avez, le même verbe, c'est le verbe paître. Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie l'Église. C'est quoi ça veut dire? Nourrir l'Église, prendre soin de l'Église, former l'Église, éduquer l'Église. Et nous voyons, c'est comme ça, ça s'est passé. Alors là, j'étais dans la résurrection de Jésus-Christ qui est ressuscité, qui s'est montré aux apôtres, à des gens, pour attester réellement qu'il est bien vivant, ressuscité. Mais maintenant, comme j'avais lu au début en Actes chapitre 1, qui nous montre que Jésus, l'ascension de Jésus-Christ, Jésus est remonté au ciel. Jésus est monté au ciel. La Bible nous dit, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais faire une petite différence entre ascension et l'assomption. Vous savez que ascension, c'est un mot dans notre langage biblique chrétien, mais il y a aussi le mot qui signifie que la montée de Jésus au ciel. Mais aussi, il y a le mot assomption, A-D-S-O-M-T-U-N, assomption, on nous dit, de l'autre côté, c'était la montée de Marie au ciel. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, comme nous sommes des enfants de Dieu, et puis nous ne sommes pas tous à la même hauteur, il y a une chose, peut-être je peux maîtriser plus facilement, et puis il y a d'autres qui ont du mal à la maîtriser. Ascension, A-S-C-E-N-S-I-O-N, c'est la montée de Jésus au ciel. Assomption, A-D-S-O-M-P-T-I-O-N, on nous dit c'est la montée de Marie au ciel. Parenthèse fermée. C'est bon pour tout le monde? Donc, Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce que nous dit la Bible en Éphésiens, chapitre 1, verset 20-22? La Bible nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. La Bible nous dit l'ascension de Jésus-Christ lui donne des privilèges, de l'autorité, de la puissance, la prééminence sur tout. Jésus, il est au-dessus de tout. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 9, verset 24, Jésus-Christ, aujourd'hui, il est notre sacrificateur. La Bible nous dit, la montée de Jésus au ciel, voilà ce que cela nous donne. Jésus, aujourd'hui, tout ce qui s'approche de lui, même si vous, je ne sais pas, quelle que soit la nature du péché, Jésus, dès lors que le souffle n'est pas coupé encore, Jésus-Christ est capable de nous donner vie. Jésus-Christ, tout ce qui s'approche de lui, Jésus-Christ est capable de nous restaurer. J'aimerais vous dire, à cause de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, aujourd'hui, quel que soit le péché, quel que soit, parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et le Père a accepté tout ça, le Père a validé. Je vous prends un exemple. Vous savez, quand vous arrivez dans un bureau, vous présentez un papier, la personne en face qui vous reçoit vérifie pour voir si ce papier est conforme, si ce papier c'est un papier légal, c'est un papier qui est conforme. Eh bien, la personne qui vous reçoit en face, qu'est-ce qu'il fait? S'il doit valider, il prend, comment on appelle ça, un cachet. Et lorsque on met un coup de cachet, la signature en dessous, ça veut dire que ce papier-là est reconnu légalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je prends cet exemple? La mort de Jésus-Christ, Dieu l'a accepté. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection, Dieu l'a accepté pleinement. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quel que soit le péché, comprenez, frère Ruben, je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un qui vit dans un péché quelconque, à la permanence, là, il y a un problème. Mais, après avoir reçu Christ, nous avons une autre nature, donc nous avons la nature de Dieu en nous. Jésus-Christ, son ascension, lui donne l'autorité sous toute domination, sous toute puissance démoniaque. Et je rappelle que lors de la crucifixion, quand Jésus-Christ est mort, il y a eu une bataille féroce parce que Jésus a pris la clé de la mort entre les mains de Satan. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et j'aimerais prendre ce texte, et je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps avance. C'est le texte de Romains 8, verset 34. Et ça, et même si vous oubliez tout, puisqu'il est question de l'ascension, il est question de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il est monté au ciel, ça, ce texte-là, c'est pour vous, c'est pour moi. Saisissez-le, saisissez ce texte, c'est pour vous, c'est pour moi. La Bible nous dit en Romains chapitre 8, verset 34, « Qui les condamnera ?» C'est-à-dire ici, je prends le texte au milieu, puisque si vous ne lisez pas le début du chapitre, vous ne pouvez pas savoir de quoi il en est, de quoi il s'agit. C'est l'apôtre Paul, un juif, sa mission c'était parmi les païens, c'est Paul qui parle. Qui les condamnera ? Ici présent symbolise ceux qui viennent, ceux qui croient, ceux qui acceptent, ceux qui confessent Jésus. Qui les condamnera ? La première chose, ça se fait graduellement. La première chose, Christ est mort. S'il était seulement mort, sans être ressuscité, il y aurait quelques craintes. Christ est mort, bien plus, j'aime bien ça. Il est ressuscité, graduellement. Et bien plus, après sa mort, il est ressuscité, comme il s'est montré à plusieurs. Les textes nous disent, il est assis à la droite des dieux. Vous savez, frères et sœurs, les thèmes, quand on dit quelqu'un est assis à la droite de quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire, ça? Quand, dans notre société actuelle, quand on entend, on dit, un tel est le bras droit, il est assis à la droite, c'est la suprématie, c'est la prééminence, c'est l'autorité, c'est ça, ça veut dire. Il est assis à la droite des dieux, et c'est pas fini. Vous qui avez votre Bible avec vous, qu'est-ce que dit la petite dernière phrase? Ah, alléluia, il intercède. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe intercéder? Il se met à la place de l'autre, il intercède pour moi, il me défend, c'est mon avocat. Vous savez, j'aimerais dire à l'église, je m'arrête là, Jésus, le fait d'être assis à la droite de Dieu, le texte 1 Jean chapitre 2 verset 1 nous dit, si quelqu'un a péché, nous avons auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ, le juste. Vous savez que si quand Eben pêche, je viens à Dieu, je confesse mes péchés, Jésus-Christ ne va pas dire que Eben n'a pas péché. Oui, il a péché certes, mais Jésus, avec la preuve, l'attestation, la marque des clous, oui, mais Eben a péché, mais je suis mort pour lui. Eben confesse mon nom. Donc voilà, Eben est acquitté. Oh, la gloire de Dieu. Eben est acquitté parce que Eben confesse Jésus. C'est vrai, il a péché, mais Eben, c'est un enfant de Dieu. Eben, c'est un disciple. Eben, c'est quelqu'un qui croit en moi. Jésus-Christ est notre avocat. Jésus-Christ, il intercède pour nous. Jésus-Christ, il nous défend. Et j'aimerais m'arrêter là. Comme le texte nous a dit, de la même manière, nous l'avons vu allant au ciel, Jésus-Christ reviendra bientôt. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il y ait des contestations, de dire on va mettre des soldats pour entraver les caveaux, pour gêner. Non, notre Dieu, il est tout puissant, il a de quoi faire pour nous mettre à l'abri et en sécurité. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen.